With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, un média web féminin que j'ai lancé en 2005 et revendu et quitté durant l'été 2020 après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte de trois autres podcasts, Histoire de Daron où j'interview des pères sur leur paternité, Histoire de Mec où je fais parler des mecs, de masculinité et un dernier intitulé La Reco de Fab Flo qui se passe en live sur Twitch et où on discute avec mes invités de leur reco culturel. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure chaque jeudi à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast préféré. Cette semaine, je reçois Sarah Daninthe, qui est ma première médaillée olympique invitée dans ce podcast, et j'espère pas la dernière. Sarah a été championne du monde à l'épée par équipe à deux reprises, puis médaillée de bronze dans la même discipline aux JO d'Athènes en 2004. Elle nous raconte comment elle est tombée dans l'escrime alors qu'elle avait 4 ans et qu'elle vivait en Guadeloupe, poussée par ses grands frères, puis son parcours qui l'a amenée petit à petit à intégrer l'équipe de France. Elle raconte aussi le racisme qu'elle a vécu au sein de l'internat une fois rentrée en métropole et comment Laura Flessel l'a inspirée après sa médaille d'or à Atlanta. On discute aussi de ses fameux JO d'Athènes, mais aussi de sa carrière après sa retraite sportive. Je vous laisse donc en compagnie de Sarah, mais avant ça, je voudrais dire un grand merci à Sophia Metz, qui fut l'une des premières invitées dans le podcast, qui m'avait mis en relation avec Sarah à l'époque. Un grand merci à vous et bonne écoute. On est avec Sarah Daninthe. Salut Sarah.
Salut Fabrice.
Comment ça va ?
Ça va plutôt bien, comme tu peux, t'as pu t'en rendre compte tout à l'heure. J'étais à fond en train de danser et chanter. Non, ça va plutôt bien.
Ouais, on est chez toi là. Effectivement, quand j'ai sonné, j'ai entendu la musique à fond. J'ai fait, bon, Sarah est en train de se mettre en condition.
Ouais, c'est cool. Ça. Un peu comme quand j'étais sportif pro. Donc, c'est plutôt pas mal. Je me sens bien en ce moment.
Ok, on va en reparler de ton actu, entre guillemets. Sarah, tu es médaillée olympique.
Ouais, entre autres.
Entre autres, t'as fait plein de choses, mais t'es médaillée olympique, t'es ma première médaillée olympique de tous les temps.
Oh.
Sur ce,
j'espère pas la dernière.
Mais merci beaucoup de venir raconter ton parcours. Tu as fait de l'escrime.
Oui, merci de m'inviter d'ailleurs. Mais oui, j'ai commencé. Enfin, j'ai fait de l'escrime. Ouais.
Tu vas nous raconter un petit peu comment t'as fait pour arriver au haut niveau, etc. Okay. Tu vas nous raconter tout ça. Moi, la première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait, à quoi tu ressemblais, Sarah, quand t'avais 7-8 ans?
Oh, balèze la première. Alors, Sarah a 7-8 ans. Alors, en fait, donc déjà, je viens de la Guadeloupe. Donc, j'ai trois grands frères de plus 9, plus 8 et plus 7 ans. Okay. Et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir été élevé par des parents qui étaient présents. C'est pas forcément toujours le cas. Et puis des parents qui avaient envie de nous transmettre quand même pas mal de choses, des valeurs, et puis surtout de nous dire qu'on peut, réussir et sans écraser les autres aussi. Donc à 7-8 ans, j'avais de l'empathie quand même. Avec du recul, hein, maintenant j'ai conscience de pas mal de choses, donc de l'empathie pour les autres. J'avais une facilité à discuter avec les personnes que je connaissais pas, que de mon âge ou plus âgé. Et puis j'avais aussi cette joie de vivre et surtout le fait de se dire qu'on peut faire énormément de choses parce que notre père nous a beaucoup inculqué ça en nous disant on peut faire ce qu'on veut. Mon frère se demandait comment on devenait astronaute. Mon père faut faire ci, faut faire ça, et puis c'est possible en fait. Et ma mère, c'était pareil un peu, mais différemment. Elle, c'était plutôt il faut travailler, il faut être premier sorti majeur de ta promo, faut travailler. Et en fait, le cumul des deux et le fait que on ait eu des parents très présents et aimants, et ça fait que la vie était plutôt belle, et puis les gens importaient énormément en fait, même ceux que je connaissais pas. De toute façon, quand j'étais plus jeune à l'école, quand on me demandait ce que tu veux faire plus tard, mon métier plus tard c'était que je voulais aider les gens en fait. Et okay. c'est pas un taf, hein, très clairement, mais
ça donne une idée de où tu veux aller, quoi.
Et puis de revoir ma prof de ma maîtresse de CP de CE1 qui me parle de ça, enfin parce que moi je me rappelle pas de ça en fait. Et je me dis ben ouais, c'est chouette, c'est
tu l'as revu là dernièrement, c'est ça?
Il y a 3 ans, j'ai revu j'y repense parce qu'en fait, j'ai revu une photo d'elle qu'on avait prise justement quand je me suis rentrée en Guadeloupe. Et c'était cool en fait, même si c'est ma maîtresse de CP, enfin moi toutes ces personnes m'ont marqué en fait. Donc, voilà, je ressemblais à ça, pleine de vie et envie de rencontrer pas mal de monde et faire pas mal de choses. Voilà.
Ils faisaient quoi tes parents comme métier? Ils faisaient dans quel
Alors, ma mère était prof de bio et ensuite elle a bifurqué bio-géo et elle a bifurqué vers un poste de principal d'un collège réputé en région parisienne. Un peu trop réputé d'ailleurs parce que du coup c'est assez politique et on prend des décisions mais que comme ce sont des enfants d'ambassadeurs de ceci de cela, c'est des fois un peu touchy.
Oh, okay.
Mon père, il était militaire, ce qui a permis à mes parents et mes frères de faire un peu le tour du monde quasi. Moi j'étais pas encore là donc j'ai pas vu ça hein. et ensuite il a été restaurateur quand il est rentré en Guadeloupe. Ils ont quitté Berlin. Ouais, quand ils sont rentrés en Guadeloupe, il a été restaurateur. Il a eu 2-3 restos qui ont pas mal marché. Puis ensuite, il a été laborantin dans un collège. Et en l'occurrence, dans le collège dans lequel j'étais, ce qui n'était pas simple non plus pour moi. Mais voilà, c'est des parents qui ont une vie normale, même si ils étaient. Je dirais pas pauvres, mais ils ont connu vraiment la difficulté quand ils étaient plus jeunes, quoi. On va dire ça comme ça.
T'es la dernière d'une fratrie de 4 avec 3 frangins au-dessus de toi.
Ouais.
Si j'ai bien compris, ils sont plus grands que toi en plus.
Ouais, plus 9, plus 8 et plus 7 ans. J'ai été plus ou moins dorlotée, mais aussi on me piquait bien ma viande quand je me levais. C'est important de le dire. Si, ils vont écouter le podcast parce que des années après, ça me marque encore.
Est-ce que tu as la sensation que ces grands frères t'ont aussi tiré vers le haut d'une manière générale, en dehors du fait qu'ils t'aient piqué ta bouffe?
ouais, totalement. Alors déjà, on a toujours été très soudés. Ces dernières années, on s'est un petit peu éloignés les uns des autres, notamment avec le décès de notre père, on a perdu notre père récemment. Donc, ça a été une épreuve qui nous a beaucoup... recentrer déjà dans le sens de la vie, mais aussi nous rapprocher entre nous encore plus et en même temps après nous renfermer chacun de notre côté, quoi. C'est très étrange, mais oui mes frères m'ont poussé et puis m'ont tiré vers le haut. Et puis en fait, c'était, même s'ils ont plus 9, plus 8 et plus 7 ans, la communication et puis même les conseils allaient dans les deux sens. J'ai l'impression qu'ils m'ont responsabilisé très jeune. C'est-à-dire que, au collège, quand un de mes frères me dit, ah oui, je pense à faire ci, je pense à faire ça, celui qui a plus de 8 ans, Harry, je me dis, mais il peut pas me demander ça, en fait. Moi, je suis toute jeune, j'y connais rien. Et en fait, ce jour-là, j'ai pris conscience que, des fois, quand mes frères me posaient 2-3 questions comme ça, en fait, ils me responsabilisaient sur pas mal de choses. Et ça, j'ai toujours trouvé ça kiffant. On a toujours eu beaucoup d'échanges et communication, et encore une fois je pense que ça vient aussi de notre famille et peut-être culture aussi, j'en sais rien, mais oui, et puis d'ailleurs c'est aussi par eux que j'ai commencé l'escrime. Sans rentrer dans le sujet, mes trois frères en fait venaient alors après mes parents, avant de venir en Guadeloupe, vivaient alors je sais plus si c'est Berlin, mais je crois qu'ils ont d'abord vécu à Berlin puis Strasbourg, donc de Strasbourg ils sont rentrés en Guadeloupe et ils sont rentrés pendant l'année scolaire avait déjà commencé. Mes frères, je pense qu'ils ne devaient pas être si sages que ça, peut-être un peu turbulents, enfin beaucoup d'énergie, on va dire ça. Donc mes parents voulaient absolument qu'ils fassent du sport, puis voilà. Et de ce que j'ai compris, toutes les activités qu'ils voulaient faire étaient prises. Donc ils se sont retrouvés à faire de l'escrime comme ça, parce qu'il y avait des créneaux. Hein, c'est pas le sport le plus connu aux Antilles en l'occurrence, surtout à l'époque. Et puis moi, ce côté de warrior en cri, et puis surtout on est tous ensemble en famille, j'ai toujours kiffé ça, donc j'ai commencé l'escrime en tout cas en regardant ce que faisaient mes frères, quoi, quand même.
Ah, okay.
Et leurs potes pour le coup.
Et t'avais quel âge à l'époque alors?
Alors J'ai commencé l'escrime vers 4 ans.
Okay. Ah oui.
Ouais, un petit peu jeune.
On peut pas 4, vraiment faire ans, plus tôt, quoi, ça. J'ai l'impression.
Si, ça se fait, okay. 3, 4 ans. Et en fait, le truc, c'est que ben, mes parents voulaient avoir une fille depuis le début. Donc, effectivement, ils ont eu trois enfants d'abord. Ils ont réessayé plus tard et ils m'ont eu. Sauf que ma mère, elle voulait une fille avec tous les stéréotypes. J'ai presque envie de dire à la con, mais tous les... Enfin,
ouais, elle voulait une
petite poupée, dommage.
Quoi.
Ouais, ouais, les couettes, je les ai portées, les jupes, les... tous les trucs que j'aimais pas, la Barbie, le machin, enfin... Donc voilà. Donc effectivement, j'ai fait de la danse. Effectivement, contre mon gré, mais voilà. On me demandait pas mon avis à l'époque. Et
Est-ce que t'aimais ça ou pas? T'arrivais à aimer?
Ah
à
non,
aimer... non, du tout.
Okay. Non, non.
Non, mais
non. Ah ouais, non, non, c'était.
Tu sais, si t'aimes l'activité
classique, quoi.
Ah oui, ok. En plus,
non, non, vraiment, ouais. C'était, c'est un calvaire. Et c'était, enfin bon. Et tous les mercredis, mon plus grand frère Grégory, qui donnait des cours. D'escrime à des tout jeunes, un tout petit peu plus âgés que moi, mais genre 5-6 ans, quoi. Donc c'est pas non plus 15 ans, mais assez jeunes, quoi, entre 6 et 8-9 ans, je crois, quelque chose comme ça, je m'en rappelle plus. Tous les mercredis, il allait leur donner un cours d'escrime à l'école primaire. Et en fait.
Déjà, il était tout jeune, il avait 14 ans, c'est ça?
Ouais.
Donc trop bien.
Ouais, c'est. Mais ça aussi, c'est. Je pense que ça vient aussi de notre père qui était entrepreneur, qui avait quand même pas mal de choses. Et du coup. Ben moi, il me déposait à la danse et ensuite il allait donner les cours d'escrime jusqu'au jour où ma prof, peut-être que tu sens le truc venir, mais un jour ma prof est tombée malade. Enfin, elle a été malade en tout cas ce mercredi-là. Et puis mon frère me dit on a attendu un peu, je t'amène, tu veux essayer, t'as kiffé, Donc voilà, j'ai commencé l'escrime comme ça. Bien sûr, jusqu'au jour où la prof est revenue et a rappelé ma mère, hein, parce que. Quand même, à un moment donné, il fallait bien qu'on règle le problème.
Okay.
C'était moins drôle. Donc elle n'a pas accepté en fait, que je fasse... Bon, déjà qu'on lui mente, forcément, parce que ça a continué.
Ah,
hein,
vous
c'est
lui
pas comme ça mercredi.
Vous lui
avez
pas dit.
Tant qu'à faire, on était bien là. En plus, c'était mon complice, dans toutes les conneries, Grégory. Et du coup, on a continué quelques temps. Et en fait, donc déjà le mensonge, ça fait pas partie de notre truc. Et puis derrière, c'est surtout que elle voulait pas que je fasse un sport de combat, quoi, un sport où on crie, un sport où il y a un côté guerrier, sa petite fille avec ses couettes et tout ça. Franchement, ça dénote de ce qu'elle imaginait, quoi. Donc au début, j'ai arrêté l'escrime quelques temps et en fait, je pense que le fait d'être aussi triste comme ça dans ma vie et si jeune a fait que j'ai pu être inscrite après, quoi. Ma mère a accepté de m'inscrire une activité, enfin l'escrime, et ensuite plus tard en club, quoi.
À quel âge alors?
J'ai dû vraiment commencer du coup à 6 ans, enfin officiellement je veux dire, peut-être 5-6 ans, mais tu vois, il doit avoir un peu plus d'un an d'écart entre le moment où tu vois, j'ai traîné quelques mercredis pendant quelques mois avec mon frère, et il doit y avoir un peu plus d'un an, quoi, entre les deux, quoi.
On va faire une petite parenthèse escrime, parce que ça fait deux fois que tu dis que c'est un sport de bagarre, de warrior, de bataille, de cri, etc.
Ouais.
Pour les gens qui ont jamais vu d'escrime. Alors moi je le sais parce que j'ai suivi les OJO, etc. Parce que c'est à peu près le seul moment où tu peux voir de l'escrime à la télé. Quoi.
En France, ouais, malheureusement, voilà.
Donc je vois exactement de quoi tu parles. Pour les gens qui n'ont jamais vu, je pense que tu peux avoir de l'extérieur l'image de l'escrime d'un truc en mode ok, on fait quelques joutes, on touche, et puis voilà, quoi, tu vois. Alors que.
Alors, en fait.
Comment ça se passe?
Alors, l'escrime, déjà, c'est un sport à la base qui est un sport de Bourges. Qui date de je sais pas quel siècle, et qui est français à la base. Ensuite, ça a été. C'était quelque chose qu'on utilisait aussi pour régler les comptes, entre hommes, hein, parce qu'à l'époque, les femmes ne faisaient encore pas de sport, très clairement. Bah oui, bien évidemment. L'escrime, en fait, vous êtes. C'est un sport qui développe la réactivité, qui développe forcément la stratégie, parce que l'idée, c'est de toucher l'autre sans se faire toucher. C'est-à-dire que si toi, t'es persuadé que en faisant, ce geste-là, en faisant un geste bien précis, puis un autre, tu vas me toucher, et que j'ai compris que c'était ça ta force, Mon but, en fait, c'est de t'amener à faire exactement ce que tu penses que tu fais. Mais en fait, c'est moi qui te contrôle et au dernier moment, je fais autre chose pour te toucher. Donc, en fait, le but, c'est d'amener l'autre à faire ce que tu veux qu'il fasse pour toucher. Et c'est au niveau de la stratégie, c'est génial parce que après, bon, il faut pas non plus être narcissique ou partir dans des trucs trop loin parce qu'au bout du compte, on peut aussi peut-être se prendre pour Dieu ou j'en sais rien ou manipuler en fait. Parce qu'en fait, quelque part, tu manipules quelqu'un, tu l'amènes à penser que c'est lui qui fait l'action alors qu'en fait, c'est pas lui, c'est toi qui l'amènes à le faire et en plus derrière, tu mets la tête à l'envers et le mec il est ou la meuf je comprends pas, j'ai toujours fait ça marche et en fait donc voilà, c'est ça l'escrime. Moi j'étais pas très vive quand j'étais plus jeune. Donc c'était aussi un moyen pour mes parents de ben oui, on y va et puis j'étais assez réservée un petit peu même si je parlais un peu à droite à gauche aux gens mais un peu réservée. Et du coup, ça m'a aussi permis de m'exprimer, de mettre, tu vois, je suis là, quoi, je suis debout, je me tiens droite, je suis bien, et d'être ancré en fait dans la vie, et puis en étant en interaction avec les gens, et tout en regardant devant moi et sachant ce qui se passe à droite à gauche, tu vois, donc physiquement et puis aussi mentalement, quoi, tu vois. Donc c'est ça en fait.
Et le truc que tu oublies de dire, c'est que ça se joue sur des joutes très courtes en fait, donc c'est très intense.
Ouais, voilà. C'est des petits matchs. Et ce que j'aime bien en fait, c'est quand généralement on me dit ouais c'est facile ton truc, on a une épée, on fait tic tic et puis ça marche. Oui. Donc généralement je dis aux gens bah ouais vous savez quand même, moi j'étais professionnel hein, donc ça veut dire que je faisais du cardio, je faisais de la muscu, je faisais de l'escrime, donc en match mais aussi en leçon, c'est-à-dire des échanges rapides et répétitif avec mon entraîneur en privé, de telle sorte que à force de tellement les répéter en fait que ça devienne des automatismes et quand tu te retrouves dans une difficulté que tu saches faire le mouvement de manière parfaite parce que ça se joue à un millième de seconde en fait. Et moi je dis toujours aux gens ben bah oui bah je, c'est exactement ça, vous vous trompez pas, c'est simple, alors venez essayer. Et généralement ils s'éclatent, donc déjà ça c'est bien. Mais à partir du lendemain, je me fais incendier, ça me fait mal parce que en fait, comme c'est un sport complet et surtout on est fléchi en fait du début à la fin, ben ça travaille les cuisses et puis les fessiers profonds quoi. Donc si t'as pas l'habitude de travailler tes fessiers, tu vas morfler pendant 3 jours. Donc déjà ça c'est clair. Et puis les gens se prennent vachement au jeu quoi. Et puis ils ont envie d'y aller. Donc voilà, que tu sois attaquant ou défensif. Ta personnalité, tu peux toujours l'exprimer dans ce sport-là. Et puis en plus, même si c'est un sport individuel, t'as besoin de l'autre, donc il y a quand même un échange, il y a besoin de l'équipe en fait. Et puis en plus, tu peux ce que tu es profondément et que tu n'oses pas exprimer, bah là c'est le moment quoi justement. Et il y a beaucoup de personnes qui se font attraper par sport pour ça justement, parce qu'ils sont totalement ce qu'ils n'arrivent pas à être dans la vie du quotidien quoi.
J'ai un peu l'impression que, alors après je pense que ça dépend un peu des caractères, des personnalités, mais en général quand tu touches, ça exulte quoi, il faut tu vois.
Très clairement ouais. Moi j'ai jamais été un bon exemple sur le côté assez calme. Je sais pas, il y a des photos de moi que j'ai fait retirer du
sentais comme ça au
du web. Parce que franchement,
t'as fait retirer du web.
Ah ouais, quand les fois en compète où j'avais la rage, je mettais une touche. Enfin, moi, je suis transcendé, c'est-à-dire que j'ai les yeux révulsés, les yeux énormes. Je suis, tu vois, un truc comme ça, quoi.
Vous avez pas l'image, mais ça fait peur.
Et là, je suis tranquille. Mais en fait, t'es dans la zone, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. T'es plus toi, en fait. T'es plus toi. Même si ce n'est qu'un sport, même si finalement tu n'es pas la personne qui est en face de toi, mais en fait tu as juste envie de la dégommer quoi. C'est juste ça. Donc ouais, il y a vraiment ce côté guerrier et c'est kiffant en fait, ça fait vraiment ressortir des choses intérieurement.
On va en reparler. Mais j'imagine un peu ta mère qui pensait avoir une petite fille avec des boucles avec des bouclettes et tout. Et puis une petite Barbie, c'était mort.
Et ouais.
Comment ça s'est passé entre vous ?
À quelle période ?
Je sais pas, en fait, tu vois, à quel moment elle a accepté, qu'elle a compris qu'en fait, la petite Barbie sera jamais la petite Barbie que j'attendais, quoi.
Ouais, ça a été, je pense que ça a été quasi dès le début, en fait, parce qu'elle voulait tellement qu'elle insistait. Et en plus, moi, c'est un truc qui me convient vraiment pas.
Déjà quand t'étais gamine ?
Ouais, ouais, ouais. Oui, déjà. Attention. Ouais, en fait, tout se passait bien, mais ce côté-là, elle forçait dessus, quoi. Alors que, ouais, finalement, enfin, elle a mis un peu de temps à... Même si elle le savait, elle a mis un peu de temps à s'avouer, se dire, bah, en fait, bah, voilà, ma fille, il faut que j'arrête de lui mettre des nœuds roses dans la tête, ça l'énerve. Maman, ça m'énervait. Il faut que j'arrête d'insister sur ces trucs-là, parce que non seulement ça me convenait pas, mais en plus, j'allais carrément à l'extrême, quoi, forcément. Donc, on a toujours été très proches. Encore une fois, nos parents ont été très présents dans nos vies, et puis tous les six, en fait, on était une famille très soudée. On a eu quand même beaucoup de chance là-dessus. Et on se parlait sans problème, en fait. On n'avait pas les gros mots, pas d'insultes. On sortait pas spécialement en soirée quand on était au collège ou j'en sais rien. Enfin, c'est vrai que j'ai pas connu ça spécialement, même si aujourd'hui, je suis quand même une bonne fêtarde. Mais on n'a jamais eu besoin de quoi que ce soit, en fait. Et avec du recul, enfin, moi, j'ai su plus tard que mes parents, ils ont morflé, en fait, pour pouvoir me permettre d'être médaillée olympique, en fait. Ils ont morflé pour que je puisse pratiquer ce sport qui n'est pas un sport gratuit, qui est quand même un sport assez... financièrement qui est lourd, quoi. En plus, partir à droite à gauche dans le monde, c'est pas simple. Partir de la Guadeloupe pour aller à Bordeaux, enfin, il y a vraiment eu des choix qu'ils ont fait pour qu'on réussisse. Ils se sont saignés, en fait, et sans pour autant qu'on les entende se plaindre et sans même le savoir au début. Moi, je l'ai su très tardivement, en fait, que c'était compliqué pour mes parents.
Okay.
Ouais, on a toujours été très proches et surtout on avait la liberté de penser et de dire ce qu'on voulait, et ça c'était très important. Et il y a quelque chose qui leur tenait plus que tout, c'est pense pas qu'à ta gueule, en fait. Il y a plein de monde, bah, je suis désolée, hein, je parle de...
Bon. Tu peux dire ta gueule, hein, t'inquiète.
Et il y a des gens, en fait, dans le besoin, il y a d'autres personnes sur Terre... On n'a pas besoin d'écraser les gens déjà pour réussir. Et puis, bon, si tu as le temps ou si tu peux, enfin, vas-y, aide d'autres personnes à arriver ou à faire quelque chose, en fait.
Et hop, petite pause auto-promo dans cette interview. Je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h, où je discute d'une reco culturelle avec un ou une invitée. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert un Discord pour discuter avec mes auditrices et auditeurs des derniers épisodes publiés. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai hâte de vous y retrouver, mais d'ici là, retour à l'interview.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ça m'intéresse beaucoup, cet aspect de compétition où t'es pas obligé d'écrabouiller l'autre pour réussir. L'un des trucs, moi, que j'ai remarqué, donc tu sais, j'ai monté ce magazine qui s'appelle Mademoiselle, où j'ai fait travailler plein de jeunes femmes, etc. Et elles avaient une aversion folle pour le terme, l'aspect de compétition, si tu veux. Et parce que, en fait, elles y percevaient un truc de... La compétition, c'est forcément écrabouiller l'autre. Alors que bah, moi qui fais du sport, du basket, etc. Pour moi, c'était surtout... Bah, en fait, c'est surtout être toi meilleur que les autres, et ça veut pas forcément dire écrabouiller les autres, quoi.
Le problème, c'est que, alors, en plus, moi, le sport de haut niveau encore plus, mais le problème, c'est que culturellement, on est éduqué comme ça, en fait. On est dans un pays, je dirais, parce que c'est pas dans un monde, mais même si dans le monde il y a cet esprit de compétition aussi dans le boulot ou un peu tout, mais on est dans une culture française qui fait que, bah, en fait, soit tu... En fait, t'as besoin d'être au-dessus des autres, en fait, pour dire j'ai réussi. T'as besoin d'avoir 15 millions sur ton compte en banque pour dire j'ai réussi, ou d'avoir, alors que c'est complètement débile. Alors, oui, l'argent peut t'aider à faire des choses, mais tu vois, là, quand t'es rentré, j'avais la musique à fond, je dansais, je chantais. Pour moi, c'était un moment heureux, en fait. Et je suis pas pété de thunes, j'aide et je soutiens des associations, je fais des choses, je m'investis. C'est pas une question de... Enfin bon, je m'écarte un peu, mais je pense pas qu'on ait besoin d'écraser les autres, enfin j'en suis même convaincu, pour réussir, sauf que la société, quand même, d'une manière générale, nous pousse à ça. Et dans le sport de haut niveau, alors moi, en plus, je faisais un sport, entre guillemets, de combat, un sport où... ou même si je me disais seul ou avec mes collègues, putain, on va la défoncer, allez meuf, allez, allez, on était comme des tarés. Mais on savait que les mêmes meufs qu'on explosait sur la piste, bah le soir on se prenait une bonne bière, on dansait comme des tarés ensemble, mais c'est pas un souci. Et pour autant, il y a malgré tout des entraîneurs qui eux n'ont rien compris et qui se disent, bah en fait, moi j'ai un de mes entraîneurs bien précis en tête qui m'a sorti plus d'une fois, et en fait t'es trop gentil, et je comprenais pas en fait, et ça me rendait dingue. Mais vraiment, c'est à partir de ce moment là que j'ai compris qu'on attendait qu'on soit des killers. C'est pas un problème, moi quand j'étais sur la piste j'étais une killeuse, ok, mais j'avais vraiment pas ce besoin, moi, d'écraser, vraiment de manquer de respect à l'autre, tu vois. Faut lui dire, attends, tu te prends pour qui, toi? Vraiment, tu penses que tu vas me toucher, toi? Tu penses que tu vas me gagner? T'es qu'une, tu vois. En fait non, on n'a pas besoin de ça. Et malheureusement, c'est que les personnes qu'on a à nos contacts, donc parfois des entraîneurs, parfois des managers de boîtes d'ailleurs, ouais. Ou parfois des profs, tu vois, ce sont quand même des personnes, oui, ou ce sont quand même des personnes qui transmettent, en fait, dont c'est le métier. Mais si ces personnes-là sont elles-mêmes, pour moi, mal chargées, enfin, je veux dire négativement, c'est-à-dire que écraser l'autre est un moyen de succès, ben ça fait quand même ils ont une palette, tu vois. Moi, je suis pas prof, je suis pas coach, donc je croise 15 personnes. Mais eux,
toute leur vie,
toute leur vie. Et par dizaines, vingtaines, enfin j'en sais rien, tu vois. Et c'est, je trouve ça un peu dommage. Mais après, le changement, c'est à nous de l'impulser. Hein. Moi, j'y crois et je suis vraiment à fond dedans. Donc,
puis c'est notamment en disant, tu vois, par exemple, dans ce podcast d'amener ta philosophie, c'est cool. En tout cas, merci de dire ça sur l'aspect d'esprit de compétition, etc. Parce que je crois que c'est un truc qu'il faut dire, et notamment aux jeunes femmes, parce que je trouve que le sport, c'est un truc qui est plutôt masculin d'une manière générale. On a tendance à mettre les petits garçons plutôt au sport, et c'est le meilleur endroit où tu peux apprendre l'esprit de compète un peu sain, quoi, non?
Ouais, enfin oui et non. Oui, je pense que c'est dans le sport tous les jours, je pense que c'est l'endroit où tu peux effectivement apprendre le sport de manière saine. Dans le sport de haut niveau, parfois, ben, on s'y perd parce que c'est pro, et que ben, derrière on a des sponsors, derrière on a de l'entrée de l'argent, derrière on a ci, on a ça. Et puis on se dit, ben, en fait on est 18, mais on n'est que 4 à partir au JO. Donc de gros investissements, mais je suis contente parce que quand même, tu vois, même si moi j'ai galéré, que j'étais confrontée à des personnes qui avaient cet esprit-là, quand je regarde les jeunes escrimeurs là, bah, mes potes épéistes, je me dis, bah ouais, les gars, ils ont tout compris, quoi. Ils se castagnent, mais comme pas possible, à l'entraînement. Ils se castagnent en compète. Ils sont ensemble. Ils font mur ensemble, et ils écrasent, mais positivement. Ils écrasent au niveau du score. Ils mettent une volée au pays étranger, mais confrérie totale, quoi. Et ça, je trouve ça propre et beau, tu vois. Enfin, là, tu le vois pas, mais j'ai des frissons,
t'as les poils.
Ça, je kiffe ça, quoi. Pour moi, ça, c'est une vraie réussite, en fait.
Revenons à ton parcours, si tu veux bien. Donc, on s'est arrêté à, tu te mets à l'escrime, etc. Si on avance un peu dans le temps, à partir de quand tu commences à te dire, OK, en fait, non seulement je suis bonne, mais en plus, maybe, il y a moyen de faire une carrière là-dedans.
Alors, il y a eu deux périodes. Alors, moi, j'ai commencé à... j'étais assez mauvaise au début. hein, on va dire les choses. Et en sixième, fin de sixième, j'ai fait mes premiers championnats de France. Donc j'étais assez jeune par rapport aux autres. Et en fait, j'ai fait troisième. J'étais, et là, je me suis dit, ok, ben ouais, en fait, ça commence à être pas mal.
Attends, déjà, quand tu fais les championnats de France, ça veut dire que tu as un bon niveau, non ?
Ben, en fait, pas forcément. En fait, tu as la possibilité de t'inscrire quand t'es jeune, hein, parce que quand t'es âgé, enfin quand t'es senior, je veux dire, tu as c'est par le classement national, okay, etc. Mais quand t'es jeune, en fait, voilà, si je sais pas, j'habite Bobigny, que je veux m'inscrire, je m'inscris quoi, okay, en fait. Donc et c'est ce qui s'est passé. Donc on, voilà, on vient de la Guadeloupe, personne nous connaissait, on nous regardait bizarre, bon. Soit. Et je fais troisième et puis on fait un podium par équipe aussi, je crois. Donc déjà là, je me dis, putain, c'est chouette, mais c'est tout, quoi. Sauf que dans la foulée, j'ai eu l'entraîneur national qui a commencé à venir voir ma mère. En fait, c'est comme si j'avais Didier Deschamps qui venait voir ma mère tous les ans, lui disait « Vous savez, votre fille, quand même, ce serait bien qu'elle vienne à l'internat à Bordeaux en équipe de France junior. » Et ma mère qui disait tous les ans bah, « En fait, elle n'a pas son bac, elle va pas partir, elle va rester là. » Et moi, je devenais dingue, mais bon, voilà.
Et tu faisais pas sport-études
non, 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 ma mère n'a pas voulu que je parte en sport-études avant mon bac 18 ans, quoi. Donc, tu vois, entre la 6e et le bac, ça fait un... Le gars, il venait vraiment tous les ans, quoi.
Et tu continuais à pratiquer, toi, l'escrime de ce fait-là, j'imaginais
que
tu pratiquais à fond.
Je pratiquais sérieusement, okay, de plus en plus en club. Après, ben, on a ouvert un pôle sport-études en Guadeloupe, mais ça restait toujours la Guadeloupe. Donc ça veut dire que j'étais quand même à 8000 km de Paris et que ben, on partait en Hongrie, on partait en Italie, ah oui, on partait en Russie, à Chicago, tout, ou au Venezuela, ce que tu veux. Mais quoi qu'il en soit, moi, je restais en moyenne une semaine par mois en Guadeloupe, quoi. Et quand je rentrais, il fallait que je récupère les cours, que je machin, que je... J'étais crevé, quoi. Ça a duré des années.
Donc, en gros, ce que tu veux dire, c'est que tu as été... T'es rentré dans l'équipe de France junior.
Ouais, de la Guadeloupe.
Depuis la Guadeloupe, alors ouais, que t'étais pas avec tes potos qui vivaient dans l'internat, en fait, c'est ça ?
Non, j'étais, okay, ouais, c'est ça. En plus, c'était pas mes potos du tout, d'ailleurs, pour le coup, parce que, bah, eux, ils vivaient pour la plupart ensemble. Enfin, il y en a qui étaient en internat, en sport-études à Bordeaux en internat, d'autres qui étaient juste en club, mais quoi qu'il en soit, ils se voyaient régulièrement. Les stages, les machins, etc. Moi, j'étais en Guadeloupe et je m'entraînais déjà différemment, ce qui était une bonne chose d'ailleurs. Et en plus, quand je venais, ben, j'avais pas vraiment d'amis, donc j'étais toujours un peu sur le côté. Et en plus, j'arrivais, je dégommais tout le monde. Donc vraiment, je faisais tout pour être apprécié, quoi. Tu vois. Bon, bref. Et donc ouais, je faisais des coupes du monde un peu partout. Et puis sur la fin, enfin voilà, ma mère. Donc 18 ans, je pars à Bordeaux et entre les deux, il y a eu le deuxième gros moment où là je me suis pas juste dit en fait on va juste être en équipe de France et faire des trucs. À 16 ans, donc là le collège, première période, championnat de France, et à 16 ans en fait, j'ai été contacté par le conseil général de la Guadeloupe et le comité olympique de la Guadeloupe, régional de la Guadeloupe. Et en fait, j'ai été parmi les 10 meilleurs athlètes de la Guadeloupe et tout sport confondu et de je sais pas quel machin de la Caraïbe. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, c'est que ils m'ont invité les 10 meilleurs athlètes à partir voir les Jeux olympiques d'Atlanta.
96.
Et l'objectif, c'était qu'on s'imprègne, qu'on regarde, qu'on ait plein la vue et qu'on se dise « Ok, ça m'intéresse et moi aussi, je veux y être, en fait. » Donc, jackpot pour eux, parce que pour le coup, moi, ça m'a... Enfin, j'ai des frissons, c'est dingue. Ça m'a... Enfin, moi, j'ai kiffé. Mais juste avant ça... Avant de partir, genre peut-être 2 jours avant ou je sais pas, je vois Laura Flessel, qui s'entraînait avec mes frères, tu vois, à l'époque où j'avais 5 ans, ouais, qui m'a presque changé les couches, qui criait comme une tarée avec mes frères, pareil, ce côté un peu guerrier, qui vient de la Guadeloupe, donc 8000 km, c'est une femme, elle est noire dans un sport de bourge, elle avait pas un rond, elle s'en sort plutôt super bien. Quand je dis noir, la tenue d'escrime, elle est blanche, hein, elle est bien blanche. Hein, et on nous l'a fait remarquer plus d'une fois, hein, pas la couleur de la salle de la tenue, bien évidemment.
Il y avait. Je veux dire que vous étiez noir, c'est ça.
Elle avait quand même, elle aussi, beaucoup de choses positives, en fait, pour y arriver. Et surtout, en fait, elle venait d'un coin paumé, en fait. Et elle a été la première championne olympique à l'épidame. Je l'ai regardée, j'ai chialé, et je me suis dit, putain, je vais être médaillée olympique. Ça, c'est la deuxième étape. C'est pas que je voulais, mais sans prétention, je savais que j'allais être médaillée olympique. C'est pas je veux, j'ai dit je vais être. Okay. Les mots ont une importance.
Ouais, bien sûr.
Donc pour moi, j'étais vraiment convaincue de ça à ce moment-là. Donc 16 ans.
Donc il y a l'aspect rôle modèle qui joue très
totalement.
Fort là pour le coup.
Ouais, totalement.
Okay.
Et donc voilà, les deux années qui suivent, je suis encore plus à fond qu'avant. Et justement, ben, je fais des Coupes du Monde, ça se passe bien. Les championnats du monde, mes premiers, etc. Enfin, tout se passe très bien. Et du coup, je pars en équipe de France. Je pars vraiment à l'internat du coup à Bordeaux. Où
enfin.
Là, pour moi, ouais, ça a été vraiment dur parce que bah, tout le monde se connaissait et moi, je connaissais personne. Enfin, on se connaissait, mais on se connaissait pas vraiment, en fait. Et puis surtout, on est toujours quatre et on est toujours enfin une vingtaine pour quatre places.
Tu veux dire, dans l'équipe, il y a quatre places,
ouais,
c'est
quatre
ça?
Quatre places de titulaires. Mmh. Donc, ça veut forcément dire que quand tu arrives, déjà, tu fais pas comme tout le monde. En plus, t'aimes pas trop les jeux à la con parce que tu sais pourquoi t'es là. Et en plus, tu prends la place de quelqu'un, en fait. Et derrière, derrière, c'est que moi, je rentrais pas le week-end, en fait. Je rentrais pas à 8000 km, je rentrais pas le week-end. Mon premier Noël, je l'ai passé seul, c'était l'enfer. Il m'est arrivé de passer des vacances à l'internat où le crêpe s'est entièrement fermé. Donc du coup, il y a une ou deux personnes qui viennent. Un cuisinier qui me fait à manger, ouais. La femme qui vient pour le linge sale, mais t'es seul, quoi. Ma première année, moi, ça a été l'horreur complète. Mais le truc, c'est que derrière, je me dis, à chaque fois que j'avais un coup de mou, je me disais, OK, je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi mes parents se saignent, en fait. Surtout ma mère, sur cette période-là, parce que mes parents étaient divorcés. Et je me dis, non, en fait, je...
T'avais ton objectif,
ouais,
les jeux.
T'es là pour les jeux, ça va pas, t'appelles, mais tu restes, en fait. Tu restes. C'est pas fini, quoi. C'est le début, au contraire. Donc, la troisième période, c'est une période... Le troisième moment, c'est Bordeaux, qui était une période vraiment très dure. Et puis, le racisme que j'ai vécu là-bas, qui était... le singe, le machin, et puis être coursé par des punks. Non, vraiment, ça a été une période très compliquée et très dure. J'étais la seule noire du Krebs.
Tu veux dire au sein du Krebs?
Ah ouais.
Tu te faisais courser par...
Non, c'est une fois en sortant.
Ah oui, d'accord.
Mais,
oui.
Bon, franchement, Bordeaux à l'époque...
Mais même au sein du Krebs, il y avait du racisme et tout.
Ah oui, oui. Et puis au sein du groupe, au sein de mon sport, au sein de plein de choses. Mais après, voilà, c'est entre guillemets la vie, la bêtise des gens. Moi, quand je viens en Guadeloupe, il y avait plus de noirs que de blonds, ce qui n'est pas choquant quand je dis ça. Mais je savais pas ce que c'était. Donc en fait, c'est en arrivant là-bas que j'ai quand même vraiment découvert ce que c'était et compris, en fait.
Ça fait quoi? Parce que t'es vieille, entre guillemets, quoi. T'es vieille pour découvrir le racisme.
Ça choque,
quoi, t'as 18 ans, c'est ça?
Ouais, enfin, je sentais à 16 ans déjà un petit peu, mais à l'internat, c'était... Parce que là, à l'internat, tu es tous les jours devant la gueule de ces connards. Donc c'est pas la même chose. C'est pas où t'es là deux fois dans le mois, quoi.
Comment tu le vis et comment tu le combats d'une manière générale?
Moi, je l'ai au début très mal vécu parce que je comprenais pas, en fait. Je faisais rien de particulier. Je leur enlevais rien, ces gens ou quoi que ce soit. Mais par contre, la façon dont je le vivais, enfin, ça a duré quelques temps. Et puis je me disais, bon, c'est pas grave, c'est leur bêtise. Mais c'est surtout que moi, mon action était très claire. J'étais là pour être médaillée olympique. Donc toi, tu veux me faire chier, tu veux me mettre des bâtons dans les roues, tu veux me mettre une peau de banane, sur la piste en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vais te défoncer, en fait. Je vais te défoncer parce que sans t'écraser, mais ce qui est sûr, c'est que tu vas me respecter sur la piste. Parce que tu peux raconter ou faire ce que tu veux à l'internat, on s'en fout, en fait, au final. Ce qu'on veut toutes là, c'est être dans l'équipe titulaire, en fait. C'est être au championnat d'Europe, être au championnat du monde, faire une médaille et partir plus tard faire les Jeux. C'est ça qui compte.
Et j'imagine que ça a marché.
Pas mal. Ouais, au bout d'un moment, donc moi je reste 2 ans à l'internat à Bordeaux. Et là, pareil, je me dis, la fin de deuxième année, j'ai envie de... Ça a été encore une grosse claque. Ça a été, j'ai eu envie de partir. Déjà, j'avais fait 2 ans et puis j'en avais marre. Et j'avais envie de me rapprocher de ma famille. Mes frères étaient en région parisienne, enfin, etc. Et j'avais envie d'autre chose. J'avais envie d'un autre entraînement. Quand j'étais en Guadeloupe, je m'entraînais plus dur que quand je m'entraînais à l'internat à Bordeaux. Et c'est la période où j'ai fait les résultats les plus forts, en fait, de ma carrière sportive. Et en fait, c'est parce que, je sais pas, il y avait pas de remise en question de l'entraîneur, en fait. Donc, si toi, déjà, en tant qu'entraîneur, tu te poses pas les bonnes questions. Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je vais dans le bon sens? Est-ce que je les challenge bien? Ça va pas marcher. Moi, quand j'étais en Guadeloupe, ben ouais, on avait des petites pistes en bois. En bois, ouais, c'est vrai, c'est pas terrible. On avait pas les moyens d'avoir une super salle. On avait 3 ou 4 pistes, je sais plus. Alors qu'au Krebs, on avait une quinzaine de pistes. Enfin, tu vois, ça n'a rien à voir, quoi. Et en plus là, 4 pistes pour plusieurs armes. Enfin bon, ouais. Bref, là, c'est vraiment pour un truc bien précis. Et on se bagarrait sur la piste, mais en même temps, il y avait ce côté challenge, mais en bonne enfance, quoi. On se charriait et du coup, ça me motivait toujours l'envie de se dépasser. Et quand donc du coup, on s'entraînait fort, tu vois. Et quand je suis arrivé à Bordeaux, pour moi, c'était une déception parce qu'en fait, on arrivait à l'entraînement 10 minutes avant, on se changeait à peine. On faisait plus ou moins semblant de s'échauffer et puis on commençait, tu vois, j'ai pas envie. Puis tu rentres dans cette espèce de facilité ou de, en fait, ton environnement ou qui est moyen ou qui a pas envie ou qui, tu vois. Mmh. En fait, toi, t'es éclaboussé par ça et tu finis par prendre ce truc-là, quoi, parce que faut pas oublier quand même que l'environnement agit aussi un peu sur nous, quoi. Totalement. Et au bout de 2 ans, j'en ai eu marre, en fait. Vraiment, je me perdais, j'avais envie de plus et surtout plus grand. Donc il a bien fallu en parler à mon entraîneur et du coup forcément en parler à ma fédération à l'époque. Et bien évidemment ça s'est mal passé. Donc sans rentrer dans les détails, mais bon, ma fédé et puis mon directeur technique, mon entraîneur et mon directeur technique national à l'époque m'ont clairement dit si tu quittes l'internat...
Tu quittes l'équipe de France.
Ah oui, non, ça sera de l'escrime loisir que tu feras. Ah bah, ça n'a pas raté, hein. J'avais plus d'entrée d'argent, j'avais plus de soutien de ma fédé. Ils ont tout fait pour que vraiment ça se passe mal, quoi.
Donc j'ai on n'est pas très loin des jeux, là, à l'époque.
Ouais,
en plus.
Là, j'ai 18 ans, je suis susceptible, enfin, je.
T'es potentiel. Potentiel
pour les jeux de 2000, à ce moment-là. Et je leur dis, non, en fait. Et pendant des mois, je suis là, mais qu'est-ce que je fais? Et j'avais pas envie de me perdre encore plus, quoi, de m'éteindre, en fait. Et je me casse, j'y vais. Bon, je pars, et ça se passe mal, effectivement, pendant un an. Donc, du coup, je repars plus en Coupe du Monde. Enfin, ils m'ont jeté, quoi, très clairement. Je prends un taf alimentaire, go sport, enfin, je m'en sors comme je peux. Et finalement, petit à petit, je reviens. Donc là, à ce moment-là, j'étais au Racing Club de France. Je reviens avec mon entraîneur petit à petit à l'équipe. Et finalement, je refais les Coupes du Monde l'année d'après, etc., etc. Et quand ils voient que je reviens plus ou moins en forme, les gars, le gros truc habituel, on te tire dans les pattes. Et quand on voit que tu peux nous aider, on te dit « Génial, on a toujours cru en toi !» J'adore. Et du coup... je suis en ballotage avec une de mes très bonnes amies à l'époque pour les Jeux. Et là, très clairement, ils me disent « On va te choisir, t'es l'avenir, t'es plus jeune. » Et elle et moi, on a plus de 20 ans d'écart. Sanguita, si tu nous entends, tu connais l'histoire. Mais voilà, on va te choisir, nanana, nanana. Donc j'aurais pu tout simplement me dire « Ok, je vais faire les Jeux, j'aurai 20 ans, d'accord. Mes premiers Jeux, c'est incroyable. » Je serai la quatrième, donc ça veut dire que je serai pas titulaire, mais remplaçant de l'équipe. Mais en même temps, je me dis, en fait, moi, j'ai toutes les infos, mais elle, Sanguita, elle a pas les infos.
Ben, ils lui ont jamais rien dit, en fait.
Okay. Ils lui ont pas dit que, même si au point, l'expérience est devant moi, en fait, on va choisir Sarah, ou on est tout simplement en train de plomber ta fin de carrière, ou quelque chose comme ça. Alors, et j'ai toujours pas de regrets là-dessus, même si on m'a déjà fait la remarque plus d'une fois. Je suis allée la voir et lui dire, bah, en fait, voilà, il nous reste quelques mois. Sache que la Fédé est en train de te mettre des bâtons dans les roues. Alors, ils veulent que je sois la quatrième. Mais voilà, au moins, tu vois, on part toutes les deux sur le même plan, quoi. Et après, tu te votes pas, mais au moins, t'as l'information, tu vois. T'as pas un truc, en gros... Et puis même, derrière, ça aurait fait quoi, en fait? Si c'est moi, si je lui dis rien et que je fais les jeux, la nana, je l'adore, et puis au final, elle va se dire, putain, cette connasse, ou j'en sais rien, tu vois. Alors qu'au bout du compte, je suis pas responsable de ça.
Oui, bien sûr.
Donc, voilà. Et la Coupe du Monde derrière, elle gagne, je crois, un truc comme ça. Donc, elle part faire les jeux, effectivement. Et moi, je pars à Sydney en tant que suppléante, donc la cinquième. Donc, ce qui fait que voilà, j'entraîne les nanas et tout, machin.
Tu joues sparring partner.
Ouais, ouais. Mmh. Mais en faisant quand même partie du noyau partie de l'équipe. Donc voilà, pas de titulaire, quoi. Et voilà, donc mes premiers jeux, génial, c'est beau, c'est magnifique, c'est une fête vraiment en tant qu'athlète. Et du coup, ben pareil, comme pour Atlanta 4 ans plus tôt, ben ça me rebooste et on part pour Athènes où on revient avec la médaille, quoi. Donc ouais, ouais.
Alors attends, tu vas pas.
Ouais, c'est parce que je me suis arrêté.
Parce que en fait, ok, donc tu goûtes au jeu cette fois-ci de l'intérieur en tant qu'athlète, et tu te dis ok, dans 4 ans c'est pour moi cette fois-ci, et je vais tout faire pour faire en sorte d'y arriver. Tu rejoins le groupe à ce moment-là.
C'est exactement ça. Je me dis ok, je suis à Paris, je suis avec ma famille, un entourage qui me plaît. Ben en fait, on n'est pas nombreuses et je pense qu'il y a moyen de jouer la carte et puis surtout de faire en sorte que l'entraîneur qui t'aime ou qui t'aime pas, en fait, on s'en fout, qu'il n'ait juste pas le choix, quoi. Donc ouais, je me dis on n'est pas loin et on n'est pas loin de réaliser en fait le pourquoi du comment, en fait. Quand même, j'ai fait plus de 8000 km, je rentrais pas chez moi, j'ai fait mon premier Noël toute seule. Enfin, il y a plein de trucs qui remontent, ouais. Et tu te dis ouais, en fait, là on va vraiment s'y mettre différemment peut-être. Mais on va s'y mettre et puis on va travailler dur. C'est-à-dire qu'on va s'entraîner dur pendant les entraînements avec tout le monde. Mais en plus, on va s'entraîner seul, en fait, en se donnant un peu plus. Moi, j'avais mes entraînements de muscu, j'avais le cardio, j'avais les leçons avec mon entraîneur personnel. J'avais aussi mes entraînements avec le groupe. Mais en plus de ça, je travaillais. Hein, en fait, ce que je faisais en Guadeloupe, je l'ai refait à cette période-là. Et surtout pas ce que je faisais à Bordeaux, parce qu'en fait c'était moindre, en fait.
Donc t'as 4 ans de plus, 4 ans plus tard. Donc j'imagine que t'as pris de la bouteille aussi et que et donc t'intègres le groupe et vous finissez médaille de bronze.
Ouais.
C'est ça, avec l'équipe.
C'est ça.
Tu peux raconter un peu?
Alors en fait c'était pas simple cette qualif olympique. Hein. Donc une Olympiade c'est 4 ans. Donc on a quand même 4 ans pour se qualifier, etc., etc. On était deux jeunes vraiment dans l'équipe. Il y avait Laura qui avait plus 9 ans, Oini qui devait avoir plus 9 aussi ou plus 8, je sais pas.
Donc ça veut dire que tu étais dans l'équipe avec Laura Flessel qui t'avait
elle-même... Laura Flessel, ouais, exactement. Voilà. Et qui m'avait à 16 ans boosté en me disant ça va le faire, en fait. Et Maureen Izema qui avait un an de moins que moi. Et on se dit, on va le faire. Avec Maureen, c'est ma très bonne pote. On va le faire. Et on n'arrivait pas à se qualifier. On a fait un hold-up, en fait. On s'est qualifié à la dernière Coupe du Monde en Allemagne. Il fallait qu'on gagne. Ou qu'une autre équipe fasse un moins bon résultat. Enfin bon, bref. Nous, on avait fait le choix, en tout cas, d'être responsable de notre destin, en fait. Donc on s'est qualifié à la dernière Coupe du Monde. Ça s'est bien fêté, hein, je te rassure. Et derrière, voilà, on est qualifié, on va faire les jeux et tu te dis, oh, t'as les yeux qui pétillent, tu vois. Donc on fait les jeux. Déjà, quand t'arrives à l'aéroport et que tu es à l'aéroport et que tu vois toutes ces personnes là. Où il y a écrit France sur leur fringue, tu dis ah ouais, ça en jette quand même. Ensuite, quand tu vois des personnes que tu encourageais derrière ton écran à crier comme une tarée à 16 ans, à 15 ans, à 18 ans, à 20 ans, et tu dis ah, on va prendre le même vol, déjà, ok, mais on va prendre le même vol.
Parce que tous les athlètes de tous les sports bougent ensemble, quoi.
À des dates différentes, mais tout, mais comme on est super nombreux, au bout du compte, ça fait des vols entiers d'athlètes, quoi. Enfin, athlètes, staff, médical et autres, quoi. Et tu te dis, c'est chouette quand même. T'es dans l'avion avec tel athlète et on y va tous les deux parce qu'on a envie d'une médaille olympique. Enfin, moi, j'ai trouvé ça canon, en fait. Donc déjà à ce moment-là tu dis ouais c'est chouette. Après j'ai eu un petit souci, c'est que à l'aéroport j'étais à la pharmacie en fait parce que j'avais peut-être mal à la tête, j'en sais rien, mais je voulais prendre un truc avant d'aller à la pharmacie, sauf qu'il y a eu une alerte à la bombe et on m'a empêché de retourner rejoindre l'équipe de France, le groupe.
Comment t'as pas pris
j'ai pas pu prendre l'avion, non.
Oh non.
Non, je t'assure, je me suis bataillée pendant 4 ans pour être là. Et le jour J, en fait, j'ai pas pu prendre l'avion parce qu'il y a une alerte à la bombe. J'arrive en courant à l'espace et tout. Et puis, au moment, on commence à prendre la passerelle avec les hôtesses et elles me disent, ben non, en fait, je suis désolée, on va pas pouvoir vous laisser rentrer. Je dis, ben comment, là, il reste, je sais pas, 10 pas, je vois pas le problème, quoi. Et en fait, elles me disent, ben, le commandant a décidé de, tu vois, une espèce de leçon pour montrer l'exemple. On n'arrive pas en retard, tu vois. Je dis, mais c'est pas de ma faute, il y a une alerte à la bombe, je pouvais pas passer, j'y suis pour rien, quoi. Donc le gars, il a préféré perdre une demi-heure, trois quarts d'heure à chercher mes bagages et les faire sortir pour me donner une leçon plutôt que de me laisser rentrer alors que j'étais à l'entrée de la passerelle. Donc ça, là, tu te décomposes. Tu te dis, 4 ans, ok, là, j'ai chialé, j'étais pas bien, j'étais au fond. Vraiment, l'horreur, quoi. Mais bon, voilà, ça commence comme ça. Et ça se finit bien parce que finalement, ben, on s'entraîne, on fait la compète est énorme. On est sur le point d'aller en finale et finalement, ben, on fait des choix qui font que, ben, on perd. Et on finit avec une médaille de bronze. Et alors, déjà, quand t'arrives dans la salle, tu dis, waouh, c'est énorme. Ensuite, il y a le public qui rentre et là, tu reviens dans la salle, tu fais, waouh, putain, c'est énorme, tu vois. Et tu dis, putain. Là, ça va être du direct dans le monde, quoi. Et ça te met une pression qui est bonne, quoi. Une pression, pas le truc lourd, mais une pression, mais bonne, tu vois. T'es sur un nuage, tu touches pas le sol, mais en même temps, tu sais que quand tu vas le toucher, tu vas bombarder, c'est bon, quoi. Donc ça, c'est chouette. Et au final, on finit troisième, on monte sur le podium. Et là, France, tu montes, tu fais « Waouh, génial !» Et en fait... au bout de 2 secondes, ben, tu repenses à plein de trucs et moi je me suis effondré, quoi. J'ai chialé, mais je me dis, bah, tu vas te calmer quand même.
C'est devant le monde entier. Oui, puis en même temps, bah, c'est le travail d'une vie, quoi.
Ouais, j'ai chialé. J'ai pensé à ma mère, à son investissement. J'ai pensé à la Guadeloupe, à Bordeaux, tous les sales coups qu'on m'a fait. J'ai pensé à ces racistes qui m'ont coursé. J'ai pensé à plein de trucs, des choses négatives, mais aussi beaucoup de choses positives, heureusement. J'ai pensé à mes neveux que j'ai pas vu grandir à un moment donné parce que j'ai fait le choix de m'investir dans mon projet. Mais c'est une joie immense, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais ressenti de moment aussi fort que celui-ci.
Ah, j'imagine. Et justement,
le futur, je suis open, on verra. Hein.
Mais justement, je voudrais qu'on fasse un petit fast forward et qu'on parle de ta carrière après sportive, quoi, tu vois. Comment tu fais pour, une fois que tu as terminé ta carrière, tu te dis, ok, bah maintenant il faut... T'as toute une vie après. Comment tu t'es préparé, toi, de ton côté?
Alors, moi, j'ai... Alors, il y a eu une autre période... Enfin, bon, j'ai eu à un moment donné, j'étais malade dans ma vie. Donc, le sport, c'était mon gagne-pain. C'était, même si on n'est pas reconnu comme professionnel, mais on s'entraîne comme des pros. Je gagnais plus ou moins bien ma vie, et à une époque je gagnais très bien ma vie. En plus j'étais licencié à Levallois, Jean-Patrick. et enfin bon voilà, je gagnais bien ma vie, ça se passait bien, et je gagnais en plus en pratiquant ma passion, donc c'était royal. Sauf qu'à un moment donné j'ai été malade, et du coup du jour au lendemain j'ai plus rien eu, ni d'entrée, je pouvais plus m'entraîner, enfin pas mal de choses. Bon, j'ai repris mes études parce que j'ai compris que mon sport, du jour au lendemain, en fait, cette fragilité dans le sport fait que tu peux du jour au lendemain avoir 15 millions de personnes autour de toi et le lendemain te retrouver qu'avec ta famille autour de toi. Ce qui est bien aussi parce que ça te permet aussi de faire un peu de tri. Mmh. Et comme l'environnement a beaucoup d'importance en fait sur l'impact de ton objectif en fait pour arriver à ta médaille olympique, donc finalement c'était un mal pour un bien aussi. Mais ça a été des moments durs tout ça. Ce qui fait que donc j'ai repris mes études, donc un master, management, marketing, spécialisation, enfin pas mal de choses qui me plaisaient, donc ça, c'est plutôt bien. Et puis je continue, j'essaie de me... Pour les Jeux de 2008, on n'a pas de d'équipe, on n'a pas de compète par équipe. En Indive, ça se passe pas bien. Bon, bref, on fait les championnats du monde à Pékin, puisque c'est une épreuve test pour l'organisation des Jeux. Donc voilà, on gagne les mondes. 2008 et tout ça. 2012, y a les Jeux à Londres et là on se vautre sur la qualif, on se dit on va remettre la. Enfin, on essaye toutes les trois, Laura Flessel, Maureen Nizima et moi, plus une petite jeune, de rentrer, de se dire ça va le faire. Sur la fin, ça se fait pas, il nous reste une compète à Paris, chez nous, devant nos amis, la famille, et on se dit ouais, il y a notre public, on va tout déchirer. Effectivement, on s'est vautré. On s'est dit qu'on allait repartir avec la même équipe que de 2004, sauf qu'on est parti avec la même équipe de 2004 avec la même façon de penser en fait, sachant qu'on n'avait plus le même peps. Entre-temps, ouais. Les adversaires avaient évolué, ce qui est normal. Enfin, on n'a pas fait grandir notre jeu en fait. Bon, il n'y a pas eu que ça, il y a aussi que tout le monde n'allait pas dans le même sens. Bon. Voilà, c'est
important
c'est
pour une équipe.
Ouais, c'est super important. Quoi qu'il en soit, donc 2012, on se vautre et il reste les Jeux de Rio, donc 2016. Ok, donc moi je fais une petite pause comme mes coéquipières. Et mon entraîneur national m'avait dit, écoute, il faut que tu gagnes les championnats de France 2015 et 2014 pour revenir en équipe et prétendre à faire des circuits nationaux, les gagner, ensuite prétendre donc aux Coupes du Monde et etc etc. Donc moi je reprends l'entraînement quelques mois avant, sérieusement, je gagne les championnats de France, donc et à une bonne manière quoi, je me dis bon ok, parce que c'était pas juste gagner, mais c'est aussi qu'ils voient que j'étais revenu à un niveau où j'allais faire mal, tu vois. Donc ça se passe plutôt bien, etc. J'étais vraiment dans la zone. Et l'année d'après, une semaine avant les championnats de France, j'ai un accident de voiture, un gros accident de voiture. Sauf sur le coup, moi je pensais que c'était juste un accident de voiture. Donc j'étais à l'arrêt et puis un mec qui regardait son téléphone qui allait très vite. J'ai pris toute la vitesse dans la tronche et bon, bref. Donc là, ça se passe pas très bien. J'ai été arrêté plusieurs mois avec des médicaments super forts, enfin l'horreur quoi. Vraiment, je résiste très bien à la douleur, mais j'ai jamais autant morflé, je pense, que cette période-là. Je dormais même plus, enfin ça c'était l'horreur, j'avais tout le temps mal.
Okay.
Donc quand j'étais et pourtant je prenais de la morphine, hein, j'ai fait de la morphine pendant des mois quoi. Et quand officiellement j'étais hors de danger, malgré la douleur, on m'a laissé reprendre l'escrime pour finir ma carrière en fait, essayer de revenir à mon niveau et aller au-delà, parce que les jeux t'es toujours obligé d'aller au-delà de ton niveau naturel. Et pour essayer de me qualifier pour les Jeux et éventuellement faire quelque chose. Mais j'ai jamais retrouvé mon niveau de base, alors que si tu passes pas la vitesse encore au-dessus pour les Jeux, ça marche pas, quoi. Donc sur le coup, j'arrête ma carrière là-dessus et moi j'ai les boules pendant pas mal de temps, jusqu'à ce qu'à un moment mon neurologue me dise, en fait, je pense que vous avez pas compris, mais vous êtes passé à pas grand-chose, donc à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Donc ça permet de relativiser aussi. Et de se dire, ouais, écoute, je suis en vie, je suis debout, tout ça, quoi. Donc, mais ça a été dur au début à digérer, quand même.
J'imagine, ouais.
Et entre-temps, moi, j'avais donc repris mes études, comme je disais, j'avais validé mon master, etc. Et puis, je suis une accro un peu de tout ce qui est tech. Et la data science, moi, c'est un truc qui m'a toujours emballé. Mais j'avais pas encore envie de reprendre 6 ans d'études, etc., etc. Donc, j'ai mis en place un process qui m'est propre, mais qui a bien fonctionné pour le coup. C'est que j'ai fait comme mes sponsors, donc Coca et NAC pour le coup. Et je me suis prise pour une marque et j'ai fait comme eux. Donc, je suis rentrée dans en donnant mon avis, en tout cas, dans le sport. Ensuite, la tech dans le sport. Ensuite, la data science dans le sport. Ensuite, la data science, enfin, etc., etc., okay. Jusqu'à devenir micro-influenceur, en fait, sur Twitter. Et donc, c'est là, sur un événement du ministère du sport et du numérique, que j'ai rencontré les frères Smet, les cofondateurs de la boîte pour laquelle je bossais jusqu'à fin janvier, et qui ont pitché leur start-up d'analyse comportementale, etc. Et en parallèle, enfin moi, mon master, ma spécialité, c'était l'analyse comportementale de l'acheteur. Donc je me dis, ouais, jackpot, même pas besoin d'aller aux États-Unis peut-être pour faire ça, etc., etc. Donc on s'est rencontrés comme ça, et puis on est resté en contact à peu près un an. Ils m'ont dragué plus ou moins pour que je vienne, et puis finalement, je les ai rejoints. Et justement, ben, la dernière année, ma dernière année olympique, malgré l'accident, ben, j'étais en détachement, en trois quarts de temps, à peu près trois quarts. Je bossais trois quarts de temps, et puis je m'entraînais. Mais bon, j'ai jamais retrouvé mon niveau, et puis je suis resté dans la boîte jusqu'à janvier là, donc okay. ça aurait presque fait 5 ans cette semaine, et voilà, c'est comme ça que s'est passée la transition. Alors après, moi je l'ai anticipé parce que je voulais bosser dans quelque chose qui me plaisait, tout comme en fait j'ai quand même eu de la chance sur pas mal de mes boulots, parce que l'escrime c'est un taf, de bosser sur des choses qui me plaisent et dont je suis passionné. Et par contre j'ai vu des athlètes, moi. En fait, les jeux, c'est un shoot. Alors, j'ai jamais pris de drogue, mais j'imagine. Mais c'est un shoot tellement fort, une adrénaline tellement importante, que quand tu reviens sur Terre, enfin, c'est bien simple. Hein, on a eu notre médaille en août 2004. On a fait la fête jusqu'à décembre. Quasi tous les soirs. Je parle pas juste des filles, hein, mecs, ouais. Les mecs, hein, la lutte, au taekwondo, au judo, enfin tous nos potes, quoi. Les escrimeurs, et au bout d'un moment, fin décembre quand même, notre entraîneur nous a dit, ce serait bien de reprendre le chemin de la salle d'entraînement, les petits. Oui, tu as raison. On est revenu et ça a été dur parce que une fois que tu as atteint ton objectif, c'est dur de te dire que que tu dois redescendre sur quelque chose de plus bas au niveau en termes d'objectifs, même si on gagne les mondes 6 mois après, tu vois, après avoir repris.
C'est pas la même adrénaline, c'est pas la même chose. Le même événement, en fait, c'est pas mondial.
Et puis même la vie, vraiment, c'est horrible, mais la vie était fade, quoi. Les jeux, c'est tellement fort, c'est vraiment un shoot, mais tout le temps. La vie était fade, donc c'est dur de se remettre de tout ça. Et du coup, derrière, tu te dis. Donc moi je reprends mes études, machin, je rentre dans cette boîte là et je me dis OK, je vais anticiper ça, parce que justement j'ai vu des athlètes qui ont eu du mal justement de passer de ce shoot qui est tout le temps présent à la vie normale, et qui sont tombés dans des extrêmes, dans des trucs c'est facile de tomber dans des choses qui peuvent plus ou moins ressembler à ça et qui te font du mal en fait. Bien sûr. En soi. Et en fait, donc voilà, j'ai bossé, je pars un peu dans tous les sens, mais voilà, j'ai bossé. Mais c'est surtout que dans la foulée, j'ai perdu mon père peu de temps. Alors déjà que c'était le deuil de la carrière sportive et de se dire « Ok, je me prépare et tout machin ». Et dans la foulée, quelques mois après, j'ai perdu violemment mon père. Et là... Là, ça m'a remis d'équerre, quoi. Ça a été horrible. Enfin, jusqu'il y a quelques mois, et franchement, ça fait quand même quelques temps. Jusqu'il y a quelques mois, c'était l'horreur, quoi. Okay. À tel point que je me suis oubliée dans le taf pendant longtemps, volontairement, ce qui réglait pas le problème, puisque je l'affronterais pas. Mais en même temps, mon taf me permettait d'avoir la tête en dehors de l'eau et pas de me perdre, quoi. Même si je me perdais quand même quelque part d'une autre manière.
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de gérer un deuil.
J'ai fait comme j'ai pu, surtout.
Surtout un double deuil, là, pour le coup, parce que tu avais à la fois le deuil de ta carrière sportive et le deuil de ton père.
J'ai fait comme j'ai pu, mais c'est sûr que pendant ces années-là, j'ai perdu une force mentale qui a toujours été très forte et présente dans ma carrière sportive. Et je suis aujourd'hui contente de la retrouver, et c'est important, ouais.
Tu disais justement que tu viens de perdre ton boulot, c'est ça ?
Ouais,
Et tu me disais juste avant qu'on démarre que c'était cool aussi parce que t'avais la sensation de... Non, mais c'est important non, de c'est dire, quoi, tu vois, parce que je pense que c'est aussi parfois une bonne façon de régler, enfin, de sortir d'environnement, quoi, tu vois. Parfois, la perte d'un job est pas forcément une mauvaise nouvelle, quoi. En tout cas, si t'arrives à avoir le chômage, que t'es en France, etc., quoi.
En fait, pour moi, c'est pas du tout une mauvaise nouvelle, hein, très clairement. Alors, c'est un peu, je ne sais pas jusqu'où je peux aller en répondant, mais en fait, moi, les derniers mois, dans ma boîte, enfin, j'adore ma boîte. Surtout, j'adore les personnes avec lesquelles j'ai bossé. J'adore les fondateurs, les cofondateurs, c'est des jumeaux. Et puis, les collègues, en soi, j'ai kiffé mes collègues. On passait des moments fous ensemble et je les kiffe encore, quoi. Moi, ça a été vraiment dur de... Après, quand je m'investis dans un taf, pour moi, c'est toujours... La relation humaine prime sur tout, quoi. Même si je peux ne pas être bien, comme ça a été le cas, c'est peut-être deux dernières ou... précisément cette dernière année.
Tu vas faire quoi après alors ? Tu peux le dire ?
Je change totalement de taf. Je vais dans le product management,
okay.
Parce que ça me fait kiffer depuis des années. Et donc voilà, j'ai fini mes certifs. Je commence déjà à faire des trucs à droite à gauche. C'est plutôt pas mal. En fait, le confinement, par contre, ça a été un truc positif pour le coup. Parce que déjà, tu as du temps pour toi le matin. T'as plus 2 heures de trajet aller-retour, donc tu peux faire un peu de yoga, un peu de médite, machin. Et puis tu peux apprendre d'autres choses. Avec tout ce qui a été mis, avec le numérique, etc. Donc ça, c'est bien.
Est-ce que tu as la sensation que ta carrière de sportive t'aide aujourd'hui dans ta carrière après sportive, justement ?
À nouveau, ouais. Parce que je reprends le process de l'objectif. T'as un objectif, t'as des étapes à valider. Si ça va pas, tu recadres ou tu recentres un peu. Et puis surtout, ça m'aide vachement par rapport à l'objectif. Et par rapport à ma personne, en fait. Tu vois, comme je te dis, je suis en train de me retrouver à nouveau. Ouais. Et ça fait du bien, quoi, de se sentir libre à nouveau, en fait. Sans parler de la boîte, hein, vraiment sentir bien, quoi.
Ouais. Merci beaucoup, Sarah. Écoute, ça fait 1h15 qu'on parle. Tu le savais ou pas ?
Ah non, pas du tout, non.
Écoute, c'est fou, hein, comme le temps passe vite quand on s'amuse. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais parler ?
Un petit sujet là comme ça. J'y pensais pas, mais comme tu le dis, alors pourquoi pas, je me tente, je me lance. J'en veux un peu, moi, aux journalistes, aux médias, en fait, ces derniers temps. J'ai eu la chance à 16 ans de voir Laura Flessel devenir médaille olympique devant ma télé, de chialer, de me dire waouh, c'est ouf. Et quelques jours après, de la croiser dans la rue, au jeu et tout. J'ai eu cette chance-là. Mais avant ça, mes rôles modèles, si je puis dire, c'était... Moi, je kiffe le basket et je suis une grosse accro de NBA. Donc, les playoffs. Et en plus, en Guadeloupe, au décalage horaire, c'était juste parfait.
Yes.
Quoi. Donc, moi, je suis de l'époque de Pippin,
Jordan,
Iverson, tout ça. Quoi.
Yes.
Même si aujourd'hui, LeBron, j'aime beaucoup. Et puis d'autres, Kevin Durant, enfin, whatever. Ouais. Donc, je kiffais tout ça. Et pour moi, la question s'est jamais posée de me dire... Enfin, je me suis jamais posé la question de me dire « Putain, je fais de l'escrime et je peux faire quelque chose, tu vois. » Je les regarde, ou du Agassi, enfin, tu vois, je les regarde et puis je me dis « Waouh. » Et un jour, j'ai vu Laura et ce jour-là, je me suis dit « En fait, je veux ça et je vais le faire. » Donc, tout ça pour dire qu'on sait, depuis quand même quelques années, hein, que la représentation et la représentativité de personnes qui nous ressemblent a un impact, en fait, sur... notre mental a un impact sur nos objectifs, a un impact sur le fait qu'on puisse arriver ou pas à un truc, en fait. Mais on n'a encore pas suffisamment de sport au féminin. On a encore trop de femmes à poil pour vendre un savon. Parce que ça change. On va dire un dentifrice à l'extrême, parce qu'un savon, encore, on peut... voilà. C'est complètement débile. Et en fait, malgré toutes ces études... les choses ne changent pas, quoi. Donc, je trouve dommage que, là, si on revient au sport, qu'une boîte comme l'équipe, par exemple, ne prenne pas sa responsabilité en se disant « Ok, ils font le choix de ne pas montrer un peu d'escrime, de tenir turning bâton parce que le retour sur investissement pour eux ne sera pas suffisant. Mais bon, finalement, est-ce que c'est vraiment que ça qui compte ? Je ne pense pas. Est-ce que mettre des nanas plus de sport au féminin, l'investissement n'est pas... Je ne pense pas non plus. Bon, maintenant, même s'ils ont quand même changé des choses, hein, l'équipe en l'occurrence, on voit plus de sports différents plutôt que juste du foot et du cyclisme. Mais tout ça pour dire que vous avez cette responsabilité, en fait, cette responsabilité de mettre des paillettes en fait dans les yeux de gamins et qui se disent putain, lui il me ressemble. Et grâce à ça, en fait, demain, je vais être comme lui. Demain, mais pas le futur Rinner, hein, comme disent souvent les journalistes. Le futur moi, en fait. Mmh. Et ça, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aimerais que... Juste ça, cette impulsion du changement, ce serait juste parfait, quoi. C'est juste mon mot de fin.
Eh ben, c'est vachement... Je sentais que t'étais parti, là, je voulais plus t'interrompre, j'étais là, oh mon Dieu.
Je te dis, je parle beaucoup. Hein.
Merci beaucoup. Non, mais merci de le dire, en fait, parce que je pense aussi que c'est important que des sportives et des sportifs comme toi qui sont passés par là viennent aujourd'hui porter cette parole-là, alors que ça fait quelques années que vous êtes sorti du game, entre guillemets, et de pouvoir encore porter cette parole, je trouve que c'est tellement important.
Ouais, c'est important, ouais.
Un grand merci à toi, Sarah. C'était
merci
génial.
Merci à toi.
Vraiment.
Et puis, j'espère.
Et puis bah, bonne chance pour ta carrière d'après.
Ben merci, ça va bien se passer. Déjà quand t'es en accord avec toi, c'est déjà pas mal.
Je crois que c'est vraiment le meilleur truc. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit. Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure, à partir de 6h du matin, dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.